Mark Twain, le roman d'une jeune Esquimau. Oui, je vous conterai tout ce que vous voudrez savoir de ma vie, monsieur Twain, me dit-elle de sa voix harmonieuse, avec son honnête regard tranquillement fixé sur le mien, parce que c'est bien à vous de me témoigner de l'affection et de me porter quelque intérêt. Et sans y prêter autrement attention, avec un petit coteau d'os qu'elle essuyait distraitement sur la fourrure de sa manche, elle détachait de ses joues toute la graisse de baleine qui les couvrait, tout en contemplant une aurore boréale splendide qui cessait tomber du firmament des torrents de lumière enflammée et inondait les opulents rayons de son arc-en-ciel les solitudes de ses plaines de neige parsemées de monumentales banquises. Quel spectacle, presque une intolérable splendeur dans la magnificence de sa beauté! Mais la jeune Esquimau ne tarda pas à sortir de sa rêverie et se prépara à me faire l'humble récit que je lui ai demandé. Elle s'installe confortablement sur le bloc de glace qui nous servait de sofa et me voilà tout oreille. Quelle créature charmante! Oh, j'en parle au point de vue Esquimau. Oh, j'en sais qu'il aurait tout juste comparé à une boule de suif. Non, elle avait juste 20 ans et passait pour être de beaucoup la plus séduisante beauté de la tribu. Même telle que je la regardais maintenant, en plein air, malgré son vêtement de fourrure, informe et disgracieux, malgré ses pantalons bouffants sur ses bottes et sa vaste capeline, la beauté de son visage n'en éclatait pas moins. Quant à sa tournure, il fallait l'admirer sur parole. Parmi tous les allants et venants que j'avais déjà rencontrés sous la hutte hospitalière de son père, aucune belle vraiment n'aurait pu lui être comparée. Elle était encore franche et naïve. Elle restait douce et naturelle et sincère. Et si elle n'ignorait pas sa beauté, rien dans ses manières ne laissait deviner qu'elle en était consciente. Depuis une semaine déjà, nous étions deux camarades de chaque jour, et plus je la rencontrais, plus j'aimais à la retrouver. Elle avait grandi dans une atmosphère de tendresse et de soins délicats, dans un milieu raffiné pour ses régions polaires. Son père était l'homme le plus important de la tribu et tenait sans conteste la première place de la haute culture intellectuelle esquimaux. Nous faisions ensemble de longues promenades en traîneau, au galop de ses chiens, et Laska, c'était son nom, les menait sur les flots de neige de ses plaines glacées. Et toujours sa compagnie restait charmante et sa conversation agréable. J'avais coutume de la suivre à la pêche, mais pas jusque dans sa périssoire. Je me contentais de l'admirer de la rive, lançant ses harpons, qui jamais ne manquaient le but. D'autres fois, nous chassions le veau marin, et souvent je restais près d'elle, quand, avec les siens, elle dépeçait une baleine échouée sur le rivage. Un jour même, je l'accompagnais longtemps à la chasse à l'ours, mais revins à la maison sans en attendre la fin parce qu'après tout, les ours me font peur. Cependant, elle est prête à commencer son récit et voici ce qu'elle me conta. Comme toutes les autres, notre tribu avait coutume d'errer de place en place sur les mers glacées. Mais mon père finit par se lasser de cette vie nomade et il y a 2 ans, il construisit en gros blocs de neige durcis cette vaste demeure qui est devant vous. Regardez-la bien. Elle mesure 7 pieds de haut et dépasse certainement en longueur 2 ou 3 fois toutes les autres. Et c'est là que nous habitons depuis lors. Il en est très fier, mon père, de sa maison. Et il a bien raison, parce que si vous avez examiné avec soin, vous n'avez pas manqué de remarquer combien elle est plus belle et plus complète qu'on a coutume d'en rencontrer. Vous ne l'avez pas examiné, il faut le faire, et vous vous rendrez tout de suite compte de son confort et de son luxe, de beaucoup supérieur à ce qu'on voit d'ordinaire. Par exemple, dans le bout que vous avez appelé « salon », Le plancher qui s'y trouve pour les réceptions de nos invités et les repas de la famille est certainement le plus large que vous ayez jamais rencontré. Convenez-en, n'est-ce pas ? Oui, Laska, vous avez raison. Il est de beaucoup le plus large, ce plancher. Et nous n'avons rien chez nous qui puisse lui être comparé, même dans les plus belles demeures des États-Unis. Cette concession rendit ses yeux tout brillants d'orgueil et de plaisir. Je m'en aperçus, mais n'eus garde de le lui montrer. « Ah, je pensais bien que vous en soyez été surpris, » dit-elle. « Et puis encore autre chose, avez-vous remarqué l'amoncellement de fourrures ? Il y en a bien plus qu'on a coutume d'en trouver ailleurs, et ce sont des fourrures de toutes sortes. Otaries, renards, argentés, ours, maître barbe zibline, oui, de toutes sortes et à profusion. Et même arrangement avec les blocs de glace et les banquettes le long des murs que vous appelez lits. Vos planchers et vos lits sont-ils aussi confortables chez vous ? Oh, certainement non, Laska. Il n'y a guère d'apparence qu'ils le deviennent. » Cette réponse suivit un nouveau plaisir. Ce qui absorbait surtout sa pensée, c'était la quantité des fourrures, et non pas leur qualité, que son père possédait. Cette quantité constituait son esthétique. Je lui aurais dit que cette masse de riches fourrures représentait une fortune, du moins chez nous, elle ne l'aurait pas compris. Ce n'était pas là des choses qui rendaient riches dans son pays. Je lui aurais dit que les vêtements qu'elle portait, que ceux de tous les jours qui couvraient les plus petites gens dans son entourage valaient 12 ou 15 000 $, et que chez nous je ne connaissais personne partant pour la pêche avec un complet de 12 000 $, elle ne l'aurait pas davantage compris. Aussi gardais-je le silence. Elle reprit. Et puis il y a aussi les slow tubs. Oh, nous en avons 2 au salon et 2 dans le reste de la maison. C'est très rare qu'on en ait 2 au salon. Chez vous, y en a-t-il 2 au salon ? Cette nomenclature ménagère faillit me faire sursauter, mais je me dominais avant qu'elle ne s'en aperçût, et je lui répondis avec effusion. Vraiment, Laska, je commence à rougir de compromettre ainsi mon pays, et vous devez ne pas m'en laisser croire dire davantage, encore que je vous parle en confidence. Mais je vous donne ma parole d'honneur que la plus riche millionnaire de la ville de New York n'a certainement pas 2 slop tubs, poubelles, dans les salons. Elle battit de joie ses petites mains gantées de fourrure en s'écriant « Mais ce n'est pas possible, dites, ce n'est pas possible, avouez-le. Mais oui, vraiment, mon enfant, c'est parfaitement vrai. Tenez, il y a Vanderbilt. » Vanderbilt est peut-être l'homme le plus riche du monde. Eh bien, serais-je à l'article de la mort, je devrais vous affirmer que non seulement il n'y en a pas 2, non pas même un seul dans ses salons. Que le ciel me confonde si je ne dis pas la vérité. Ses yeux charmants restaient grands ouverts d'étonnement, et elle me dit avec une sorte de tremblement dans la voix. Mais voilà qui est étrange, presque incroyable, on a peine à l'admettre. Est-ce qu'il est avare ? Oh non, pas non, ce n'est pas la dépense qui l'arrête. Mais vous savez, il craindrait de faire le glorieux. Oui, oui, c'est bien cela, c'est sa manière. C'est un homme tout rond, étranger à tout étalage. C'est fort bien, dit Laska. Un peu de modestie ne messied pas quand elle garde de justes limites. Mais son salon, après tout, à quoi peut-il bien ressembler. Naturellement, il paraît bien un peu vide et incomplètement terminé, mais oh, c'est aussi mon avis. Je n'avais encore jamais rien entendu de pareil. Et la maison est-elle bien tenue, au moins, quant au reste? Oui, oui, fort bien. Aucune critique à faire, au contraire. La petite restait silencieuse, assise et grignotant toute rêveuse une bougie, cherchait apparemment à pénétrer ma pensée. À la fin, elle secoua doucement la tête et exprima avec décision son avis. « À mon sens, dit-elle, il y a une manière de modestie qui par elle-même constitue un véritable étalage, surtout quand elle est exagérée. Et quand on peut se donner le luxe de deux buffets dans son salon sans les y installer, la chose assurément peut provenir d'une étroitesse d'esprit, mais il y aurait plutôt 100 raisons de penser que c'est là un moyen d'étonner son public. Je croirais donc que votre monsieur Vanderbilt sait très bien ce qu'il fait. Et je m'efforçais de lui faire changer d'avis et de l'admettre qu'elle était dans l'erreur, qu'on ne jugeait pas ainsi un homme sur le nombre de ses ustensiles de ménage. Oh, ce fut en vain. Son esprit était fait et tout fut inutile. Alors elle reprit. Est-ce que chez vous, les millionnaires ont d'aussi beaux bancs à dormir que les nôtres, taillés dans d'aussi larges blocs de glace ?
Sans doute, lui répondis-je, nos lits sont passables, assez bons même, mais pas taillés dans la banquise.
Voilà qui est singulier, fit-elle, et pourquoi ne sont-ils pas taillés dans la glace ?
Je lui expliquai les difficultés de la chose, et le haut prix de la glace dans un pays où il est prudent d'avoir l'œil sur le fournisseur pour que la facture ne pèse pas plus que la marchandise.
Et la voilà qui s'exclame. « Alors, vous achetez votre glace ?»«
Certainement, oui, nous l'achetons. »
Elle part d'un éclat de rire inextinguible.
« Par exemple, j'ai jamais rien entendu de si extraordinaire. Oh, mais il y en a partout. Elle est sans valeur. Voyez, n'en avons-nous pas des milliers de livres devant nous ? En vrai, je ne donnerais pas une arête de poisson du tout. »
« Allons, repris-je, ne faites pas la finaude. C'est plutôt parce que vous ne savez pas l'évaluer. Si vous aviez été à New York au mois de juillet, avec ce qu'on a payé, vous auriez pu acheter toutes les baleines du marché. » Elle me regarda, surprise, pour me dire « Est-ce vrai ?
Absolument, j'en fais le serment. »
Elle resta pensive et reprit avec un léger soupir « Oh, je voudrais pouvoir demeurer dans votre pays. » J'avais seulement l'intention de lui faire comprendre une unité de valeur à sa portée. Mais je n'y avais pas réussi. Et j'étais arrivé à lui donner l'impression qu'à New York, il y avait à bon marché beaucoup de baleines. Et l'eau lui en venait à la bouche. Alors il me sembla préférable de pallier mon erreur et je lui dis « Mais bien sûr, vous ne feriez plus attention aux rôtis de baleine si vous étiez chez nous. Personne n'en veut. »
Vraiment ? C'est la vérité pure.
Et pourquoi ?
Parce que, en vérité, je n'en sais rien. C'est une prévention, peut-être. Oui, c'est cela, simple prévention. Quelqu'un, sans doute, qui n'avait rien de mieux à faire, s'est amusé à discréditer le rôti de baleine. Il doit y avoir quelques années, et voilà tout. Vous le savez, quand une fantaisie de cette sorte devient à la mode, elle dure jusqu'à la fin des temps.
C'est vrai ce que vous dites, parfaitement vrai, dit-elle avec un petit rire réfléchi. Si, tenez, c'était comme la prévention que nous avions ici contre le savon. Car vous le savez bien, n'est-ce pas, que nos tribus ne voulaient pas d'abord entendre parler de savon.
Je la regardais pour voir si elle parlait sérieusement. C'était bien vrai. J'hésitais un moment et repris avec prudence. Je vous demande pardon. Vous dites qu'elles avaient, vos tribus, une prévention contre le savon. Bien vrai ? Ajoutai-je presque tout bas.
Sans doute, dit-elle, mais pure prévention. Et seulement pendant quelques jours, quand on nous eut apporté des pays lointains, personne ne voulait en manger.
Très bien, je comprends maintenant.
Oui, personne ne le trouvait bon d'abord. Mais quand il fut à la mode, tout le monde en mangea. Et maintenant, tous ceux qui sont assez riches pour en servir sur leur table n'y manqueraient pas. Est-ce que vous l'aimez ?
Oui, certainement. À en mourir s'il me manquait, surtout ici. Et vous ?
Je l'adore. Et les bougies ?
Certes, oui, je les envisage comme de première nécessité. Vous en raffolez aussi. Ses yeux pétillèrent. Oh, ne parlons plus de ces choses exquises. Je disais donc que nous nous installâmes donc dans notre magnifique maison. Mais j'étais pas heureuse. Pourquoi ? Parce que j'étais née pour l'amour. Sans lui, il ne pouvait y avoir de véritable bonheur pour moi. Je voulais être aimée pour moi-même. Je voulais une idole, et je voulais aussi être l'idole de mon idole. Et rien qu'une mutuelle adoratrie ne pouvait satisfaire ma nature affectueuse. Oh oui, certes, j'étais entourée de prétendants. Oh, plus que je n'en souhaitais même. Mais tous et chacun avaient un défaut, capital ou plutôt, ou plus tard, je découvrais ce défaut. Les uns pour les autres, ils se trahirent eux-mêmes. Ce n'était pas à ma personne qu'ils en avaient, mais à ma fortune. Votre fortune ? Eh oui, car mon père est le plus riche de notre tribu, même de toutes les tribus de ces régions. Je cherchais, surpris, en quoi pouvait bien consister cette fortune. Ce ne pouvait être sa maison. Quiconque pouvait ici bâtir à sa guise. Ce ne pouvait pas être davantage ses fourrures, elles étaient sans valeur. Pas davantage le traîneau, les chiens, le bateau, les filets et autres ustensiles de pêche. Non, tout cela ne pouvait constituer une fortune. Alors qu'est-ce qui pouvait donc bien rendre si riche le bonhomme et amener sous son toit tant de vils flatteurs ? À la fin, il me sembla que le meilleur moyen de le savoir était de le demander. C'est ce que je fis. Elaska fut si manifestement ravie de la question que je m'aperçus tout de suite de l'impatience qu'elle avait de se l'entendre adresser. Elle désirait autant me confier la chose que je brûlais de l'apprendre. Aussi se pencha-t-elle confidentiellement à mon oreille pour me dire « Devinez la fortune de papa, jamais vous n'y arriverez. » Je fis semblant de réfléchir profondément. De son côté, elle examinait avec une attention ravie mon attitude d'anxieux recueillement, et quand à la fin j'y renonçais, en la suppliant d'apaiser ma curiosité et de me dire enfin la fortune de ce Vanderbilt du pôle, elle se pencha à mon oreille et me dit bien bas et ému « 22 hameçons !» Pas en arête, mais importé, et fait en fer véritable. Puis elle se retira de quelques pas en arrière, dramatiquement, pour observer l'effet de ses paroles. Mais pour ne pas la désappointer, je gardais mon sérieux, et presque pâle, je murmurais « Oh, grand Dieu !»« Oui, mais c'est aussi vrai que vous vivez, monsieur Twain !» Laska, vous me trompez, est-ce possible ? Elle se troubla, presque effrayée, en s'écriant. Mais monsieur Twain, tout cela est vrai, depuis le premier mot jusqu'au dernier. Vous me croyez ? Vous me croyez bien, nettement, n'est-ce pas ? Dites que vous me croyez, oui, dites-le que vous me croyez. Oui, je vous crois, du moins, je fais ce que je peux pour le croire. Mais tout cela a été si imprévu et si invraisemblablement. Mais pourquoi ne le dire sans préparation ? Me demande pardon, si j'avais pu seulement... Oh bon, n'en parlons plus, repris-je. C'est tout. La jeunesse est parfois étourdie. Et puis vous ne pouviez pas prévoir quel effet. Oui, sans doute, mais j'aurais dû penser à tout. Si encore, Laska, vous aviez dit 5 ou 6 hameçons pour commencer, et après, peu à peu... Oui, je comprends. Après, peu à peu, dire 1, puis 2, puis 3, pourquoi n'y ai-je pas songé ? Mais c'est tout, enfant, n'en parlons plus. Je me sens mieux. Dans un instant, il n'y paraîtra plus rien. Mais vraiment, accabler quelqu'un avec les 22 hameçons... Comme cela, tout d'un coup, sans l'y préparer, et une faible créature encore. Oh, quelle bévue, gémit-elle. Mais pardon, vous me pardonnez, n'est-ce pas? Et ainsi de suite, et après de nombreuses gentilles excuses, j'accordai mon pardon. Elle en fut toute heureuse, et ne tarda pas à reprendre ses confidences. Aussi ne fus-je pas longtemps à savoir que le trésor de la famille comptait encore un autre monument, un bijou de grand prix apparemment. Elle cherchait à me le décrire avec une manière de précaution pour m'éviter une nouvelle émotion. Mais je voulais savoir et ne lui laissais de repos qu'elle ne m'eût tout dit. Elle hésitait, mais je lui répétais tant de fois que j'étais maintenant préparé à tout entendre sans éprouver la moindre émotion. Je la rassurais si bien qu'elle finit par m'avouer que le bijou était sur elle. Et portant la main à son corsage, elle met sous mes yeux, que son regard épiait anxieusement, un joli petit carré de cuivre battu. Je me laissai choir sur elle d'une feinte si bien jouée qu'elle en tressautait d'aise. Et dès que je parus calmé, vite, elle s'empressa de me demander ce que je pensais de son bijou. Ben, « ce que j'en pense, dis-je bien, oui, je pense que c'est bien la chose la plus exquise que j'ai vue. »«
Vraiment, oh, comme c'est aimable, à vous d'en convenir. N'est-ce pas que c'est adorable? Je pensais bien que vous en seriez enthousiaste. Quel bijou ravissant! Oh, certainement, il n'y a pas une semblable merveille sous nos latitudes. On est venu en foule des mers polaires pour la contempler. » Avez-vous déjà vu un si beau joyau?
Je lui répondis que c'était le premier que je voyais. Il m'en coûta de lui conter le généreux mensonge, car j'en avais vu par milliers des bijoux, tous semblables aux siens, la pauvrette, qui prenait pour un inestimable joyau un vieux ticket à bagages du New York Central Railroad. Lasca, m'exclamai-je, vous ne partez pas toujours ainsi sur vous un pareil trésor, seul et sans être accompagné, pas même d'un chien.
Chute pas si haut, dit-elle, personne ne sait que je l'ai sur moi. On pense qu'il est toujours serré avec le trésor de papa, d'où il ne sort guère d'ailleurs.
Et où est-il ce trésor? Oh, ma question était indiscrète. Un moment, elle resta surprise et quelque peu défiante. « Allons, venez, lui dis-je, n'ayez pas peur. Dans mon pays, nous sommes 70 millions d'habitants. Eh bien, personne n'hésiterait, excusez-moi de me rendre cette justice, à me confier sa cachette qui abriterait des hameçons. » Ces paroles la rassurèrent et elle ne mit plus de difficulté à me répondre. Puis elle me vanta les carreaux de glace transparente qui étaient les maîtres de vin de maison. Elle me demanda si nous en avions de pareils. Je n'eus aucune peine à lui avouer que non. Ce qui lui plut si fort qu'elle ne savait comment m'exprimer son contentement. Il était si facile de lui plaire et si agréable d'y réussir que je continuai en lui disant « Ah, Lasca, quelle heureuse jeune fille vous êtes! Cette demeure magnifique, ce bijou rare, ce trésor si riche, ces océans de neige à parcourir, ces ours en troupeau pour vos chasses, la noble liberté au milieu d'une stérilité sans limite qu'agrémentent de somptueuses banquises, mais toutes ces splendeurs pour vous, et tant d'yeux charmés qui adorent les vôtres, et les hommages et les dévotions des foules empressées à vous plaire, tous ces enivrements pour vous, jeune, riche, belle, partout recherchée, partout adulée, enviée, pas un de vos désirs qui ne soit satisfait, pas un vœu sans être réalisé. Oui, tout, tout pour vous. Mais n'est-ce pas vraiment un bonheur sans mesure? C'est par milliers que j'en ai rencontré des jeunes filles. Il n'y en avait point comme vous. Aucune d'elles ne pouvait se flatter de pareille splendeur. Vous seul en jouissez, et vous en êtes digne, oui, vraiment digne, Lasca,
De tout mon cœur, je le proclame. Mes paroles la rendirent fière et heureuse. Elle me remercia encore et encore de mes dernières phrases, et sa voix et ses yeux montraient combien elle en était touchée. Elle se mit à me dire « Oui, pourtant, il y a bien des ombres à côté de ces brillants rayons. C'est un lourd fardeau à porter que celui de l'opulence. Et souvent je me suis demandé s'il n'était pas préférable d'être pauvre, ou tout au moins de vivre avec une fortune ordinaire. Cela me chagrine de voir les tribus voisines ouvrir de grands yeux ébahis quand elles passent à notre porte et se confiant tout bas avec une manière de respect. Voyez, la voilà, la fille du millionnaire. Et quelquefois, elles ajoutent avec un soupir, elle roule, elle, sur les hameçons et nous n'avons rien. Cela me fend le cœur. Dans mon enfance, nous étions pauvres. Alors, si cela nous plaisait, nous dormions les portes ouvertes. Et maintenant, nous sommes obligés d'avoir toute la nuit un veilleur. Dans ce temps-là, mon père était gai et affable pour tous. Austère et hautain, aujourd'hui, ne veut plus tolérer de familiarité. Autrefois, c'était sa famille qui occupait toutes ses pensées. Et maintenant, il s'en va, son esprit abîmé, tout le temps, dans ses hameçons. Son opulence rend chacun autour de lui rampant et obséquieux. Oh, du fond du cœur, je hais les manières des millionnaires. Nous étions dans le temps une tribu de braves gens, simples, satisfaits des hameçons d'arêtes, de poissons, de nos pères. Et maintenant, l'avidité nous ronge. Nous sacrifierions tout sentiment d'honneur et de probité pour posséder cet avilissant hameçon de fer qui nous vient de l'étranger. Bon, mais laissons ces tristesses. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'était mon rêve d'être aimé seulement pour moi-même. Et à la fin, il me sembla que ce rêve allait se réaliser. Un jour, un étranger arriva et nous dit que Kalula était son nom. Je lui dis le mien, et il répondit qu'il m'aimait. Mon cœur battit de reconnaissance et de bonheur, car à première vue je l'avais aimé et je le lui dis. Il me pressa longuement sur sa poitrine, en affirmant qu'il ne pourrait jamais être plus heureux qu'il l'était. Nous fîmes une longue promenade ensemble, bien loin, sur les glaces flottantes, échangeant toutes nos pensées, envisageant, oui, le plus doux des avenirs. Et quand enfin nous fûmes un peu là, nous nous assîmes pour goûter, il avait dans son sac des bougies et du savon, et moi quelques crabes. Nous avions faim, jamais nous n'avions encore trouvé rien d'aussi bon. Il appartenait à une tribu dont les tentes se dressaient bien loin, plus au nord. Et ce qui me combla de joie, je devinais qu'il n'avait jamais jusqu'alors entendu parler de mon père. Sans doute l'existence du millionnaire lui était connue, mais il ignorait son nom et par conséquent qu'il avait devant lui sa fille. Vous pensez bien que je me gardais bien de le lui dire. Enfin, j'étais donc aimé pour moi-même, et dès lors, dans mon ravissement, oh, j'étais si heureuse, oh, bien plus heureuse que vous ne pouvez vous l'imaginer. Sur ces entrefaites, l'heure du dîner approchait, et je le menais à la maison. Quand nous arrivâmes tout près, son admiration éclata. « Oh, quelle splendeur ! » s'écria-t-il. « Est-ce là chez votre père ?» Jugez de ma surprise et de mon émoi, à son exclamation, à ses yeux illuminés d'étonnement. Et moi, bien vite disparu, parce que je l'aimais et que sa démarche n'en restait pas moins imposante et tranquille. Mes oncles et mes tantes, tous mes cousins, tous, nous restâmes charmés et de nombreux invités arrivèrent. Et les portes bien closes, la maison étincelante des mille feux de nos lampes de papier, éclairant une atmosphère chaude suffisante et confortable, nous commençâmes un joyeux festin pour célébrer nos fiançailles. Au dessert, papa ne put faire taire sa tentation de montrer toutes ses richesses à Kalula, de mettre sous ses yeux l'extraordinaire fortune qu'il avait rencontré et par-dessus tout de jouir de l'étonnement et de l'admiration du bonhomme. Oh, j'en aurais pleuré, mais c'était bien inutile d'essayer de détourner mon père de son projet. Je gardais le silence et je restais assise tout attristé. Et le voilà qui, devant tout le monde, va droit à la cachette, en tire tous les hameçons précieux et dans un beau mouvement les jette par-dessus ma tête sur le plancher où il s'éparpille dans une éblouissante confusion aux pieds de mon bien-aimé. Naturellement, le pauvre garçon restait médusé et ébloui. L'admiration le suffoquait. Il ne pouvait comprendre qu'un homme pût posséder à lui seul tant d'incroyables richesses. Alors tout à coup, il se ravise, ses regards s'animent et il s'écrie « Ah, je le vois, c'est vous qui êtes le millionnaire fameux !» Et mon père et tout le monde se mirent à rire aux éclats. Puis papa ramassa distraitement le trésor, comme une chose sans valeur, et le replaça dans la cachette. Oh, si vous aviez vu Kalula, vraiment il était à peindre. Est-il possible, cria-t-il, que vous seriez ainsi sans les compter tant de joyaux? Vraiment, repartit mon père avec son gros rire glorieux, on voit bien que vous n'avez jamais été riche pour donner tant d'importance à deux ou trois hameçons. Certes, monsieur, dit Kalula, après un instant de court embarras, je n'ai jamais possédé, même en bribes, de pareille magnificence. Je n'avais pas encore rencontré quelqu'un d'assez riche pour y toucher sans les compter. Oh, par la très bonne raison que le plus riche de tous ceux que j'ai vus avant vous ne l'était que jusqu'à concurrence de trois hameçons. Papa continua de rire de plus belle, de l'air de quelqu'un qui n'a guère coutume de compter ses hameçons, encore moins de s'en préoccuper. Il en faisait les honneurs, oui, mais les comptait. Pourquoi ? Il les comptait chaque jour. C'était dans l'après-midi que j'avais rencontré et aimé mon fiancé. 3 heures après, juste au crépuscule, je l'avais emmené à la maison, car les jours diminuaient et la nuit de 6 mois allait commencer. Le banquet avait duré plusieurs heures. Les invités partis, nous nous installâmes les uns et les autres sur nos bancs, et bientôt tout le monde dormait. Seul, je veillais. Oh, j'étais bien trop heureuse, trop agitée pour m'endormir. Sans bouger, je reposais depuis longtemps déjà. Quand une forme imprécise passa près de mon lit pour disparaître dans la profonde obscurité qui régnait au fond de la pièce. Impossible de rien distinguer, ni qui c'était, ni si c'était un homme ou une femme. L'apparition ne tarda pas à reparaître encore, se dirigeant du côté opposé. Immobile, je restais étonné. Mais s'étonner ne mène à rien, et tout en m'étonnant, je m'endormis. Combien dura mon sommeil ? Oh, je ne le sais pas. Mais ce que je sais bien, c'est que je me réveillais en sursaut, juste au moment où papa criait d'une voix terrible. « Par le dieu des neiges, il manque un hameçon !» Alors le pressentiment me vint qu'il allait m'arriver un malheur et tout mon sang se glaça. Oh, mon pressentiment ne fut pas long à prendre corps. « Tout le monde debout !» tonna mon père. « Et qu'on se saisisse de l'étranger !» Alors, de toutes parts, dans l'obscurité profonde, des clameurs s'élèvent, des formes imprécises courent et se précipitent. Je bondis au secours de mon bien-aimé, mais que pouvais-je, sinon attendre et implorer? Déjà une muraille humaine m'en séparait, et il était par terre, pieds et poings liés. Jusqu'au moment où se fut rendu tout à fait maître de lui, on m'empêcha d'approcher. Je me précipitai sur le pauvre être, maintenant immobile, et ma poitrine, contre la sienne, je laissais échapper mes cris de douleur, pendant que mon père et toute la famille m'accablaient de railleries et le couvraient d'injures et d'insultes. il endurait son infortune avec une dignité tranquille qui me le rendait plus cher et me donnait une sorte de joie et de fierté de souffrir avec et pour lui. J'entendis mon père donner l'ordre de convoquer les plus anciens de la tribu pour juger Kalula et prononcer la sentence capitale. « Est-ce possible ? » m'écriai-je, même avant qu'aucune recherche ait été tentée pour retrouver l'hameçon perdu. « Hameçon perdu ! Ha ha ! » crièrent-ils tous, et mon père ajouta en se moquant. « Place, place, et ne bougeons plus. Elle va se mettre en quête de ce hameçon égaré. Bien sûr, elle va le retrouver. » Et chacun de rire encore. Je n'étais pas intimidé, ne ressentais ni crainte ni doute, et me mis à dire « Oh, vous riez maintenant, mais un instant, attendez. Notre tour viendra, vous allez voir. » Je pris une torche et n'eus aucun doute que j'allais tout de suite mettre la main sur le bijou perdu. Je cherchais avec une telle confiance que les figures devinrent graves. M'aurait-on porté trop tôt un jugement téméraire ? Mais hélas, trois fois hélas, que d'amertume dans cette recherche ! Il y eut un profond silence, le temps de compter 10 ou 12 fois ses 10 doigts, puis le cœur commença à me manquer et les moqueries reprirent à mes côtés, peu à peu plus assurés et plus hardis, pour s'épanouir dans une explosion de rire sarcastique quand il me fallut abandonner la partie. Ah, je fus sur le point de m'évanouir. Je croyais être seul à le savoir, mon secret, que l'étreinte du grand dieu de glace lui-même n'aurait pu arracher de mon cœur. Le chef du tribunal dit gravement à mon pauvre Kalula, « Répondez !» Et après un moment d'hésitation, Kalula s'exprima ainsi. « C'était moi. Oui, ces absences splendides remplissaient ma pensée et éloignaient de mes yeux le sommeil. Alors je me dirigeais vers les joyaux, je les portais à mes lèvres et les contemplais longuement pour apaiser ma soif d'admiration dans cette satisfaction innocente. Puis je les ai remis à leur place. J'ai pu peut-être en laisser tomber, mais je n'en ai volé aucun. Oh, quel fatal aveu ! Et en pareil moment, un murmure de désapprobation se fit entendre partout dans l'assemblée. Alors je compris qu'il venait de prononcer lui-même sa propre condamnation et que tout était consommé. Chez chacun des juges, on pouvait bien lire écrire sur son visage « Quel semblant d'excuse et combien piètre sans valeur et inadmissible !» Je restais assise, comprimant les sanglots qui m'étouffaient. Et dans quelle anxiété ! Enfin, les mots solennels et la sentence furent prononcés, et chacun de ces mots mettait un coup de poignard au cœur. « C'est la décision du tribunal qui le condamne et soit soumis au jugement de l'eau. » Maudit soit celui qui a importé chez nous le jugement de l'eau. L'institution date déjà de plusieurs générations, et nous la devons à une contrée très éloignée qui se trouve on ne sait pas où. Auparavant, nos pères contentaient de faire appel aux augures et à d'autres pratiques de jugement assez précaires. Et sans doute, quelques pauvres diables leur durent de sauver leur vie. Mais il n'en va pas ainsi avec le jugement de l'eau, qui est une invention d'hommes beaucoup plus civilisés et avisés que nous ne pouvons l'être, nous autres, pauvres sauvages. Par ce jugement, les innocents sont reconnus innocents, sans aucun doute ni question, s'ils se noient. Et les coupables sont convaincus de leur culpabilité, avec la même certitude s'ils surnagent. Alors j'avais le cœur brisé. Il est innocent, me disais-je, il va donc disparaître sous les flots, et je ne le verrai plus jamais. Dès lors, je ne le quittai plus. Je pleurais dans ses bras les dernières heures qui nous restaient, et lui confia à mes oreilles tous les mots d'amour qu'il savait. Oh, combien je fus à la fois heureuse et infortunée! À la fin, il fut arraché de mes bras, et je me mis à le suivre en pleurant, et le vis le jeter dans les flots. Oh, de mes mains, je me cachais les yeux. Quelle agonie! Oui, je connais les affres les plus profonds de ce mot affreux. Et tout à coup éclata à mes côtés une sorte de joie impie. Ému, j'ouvre les yeux. Oh, spectacle plus amer encore, il surnageait. Sur le champ, mon cœur devint de glace, je m'écriais. Mais il était coupable et il m'a menti. Je me détournais de mépris et rentrais tout droit à la maison. On le transporta loin, bien loin, vers la haute mer, et il fut abandonné sur une barquise qui s'en allait pousser au large vers les océans du sud. Puis ma famille me rejoignit et mon père me dit « Votre voleur m'a chargé de vous apporter son adieu de mort et ses dernières paroles. Dites-lui bien que je suis innocent et que tous les jours, pendant toutes les heures, à chaque minute de mon agonie jusqu'à mon dernier soupir, je l'aimerai et penserai à elle, et bénirai le jour où, pour la première fois, je contemplai son doux visage. N'est-ce pas charmant, presque poétique ? Je me contentai de répondre. C'est un... Donc, on ne me parle plus jamais de lui, et dire qu'il était innocent, et qu'il fut toujours innocent. 9 mois, 9 lugubres mois passèrent, et puis revint la fête annuelle du grand sacrifice, le jour où toutes les jeunes filles de la tribu doivent laver leur visage et onduler leurs cheveux. Et au premier coup de peigne, voilà la meçon fatale qui tombe de ma chevelure, où il était resté niché depuis la nuit maudite. Et je m'évanouis dans les bras de mon père, bourrelé de remords. Hélas, fit-il d'une voix sourde, nous l'avons assassiné. Plus jamais on ne me verra sourire. Il a tenu parole. Quant à moi, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il ne se passe jamais de moi que je n'ai le souvenir d'onduler ma chevelure. Mais hélas, à quoi bon maintenant ? C'est là que se termine l'humble et mélancolique récit de la pauvre mignonne. Il nous enseigne que, puisque 100 millions de dollars à New York et 22 hameçons au rivage du pôle arctique représentent la même égale suprématie financière, on est bien sot de vivre besogneux à New York au lieu de se faire pour 10 sous une pacotille de hameçons et émigrer.